ce soir, nous devons parler d'un sujet particulièrement grave, je crois très intéressant et très important. Essayez de comprendre le grand obstacle à ce que représente la finalité de l'éthique chrétienne, c'est-à-dire la sainteté. Et cet obstacle est le même par rapport à la finalité de la vie humaine, ce que nous verrons au terme. C'est le même obstacle, mais évidemment, c'est dans un regard d'éthique chrétienne, et on pourrait aussi dire d'éthique religieuse, parce que d'éthique tout court, au point de vue humain, serait plus difficile de le préciser. Mais c'est dans un regard d'éthique chrétienne que nous pouvons le mieux saisir comment l'orgueil est de fait l'anti-sainteté. Alors, je voudrais avec vous réfléchir sur ce que nous connaissons très bien. Nous avons l'avantage ce soir que nous avons tous l'expérience de ce que je vais vous parler. Là, aucune originalité, nous sommes tous des orgueilleux. Nous savons, mais nous n'osons pas le dire. Alors je vais le dévoiler avec vous. Parce que en réalité, ce n'est pas la perte de l'être qui existe. C'est beaucoup plus la perte, je dirais philosophiquement, de l'orgueil. La philosophie contemporaine est une philosophie d'orgueil qui ne veut plus regarder l'orgueil. Et je crois qu'il faut le dévoilement de l'orgueil. Et il faut dévoiler ce que c'est que l'orgueil. Et on verrait qu'au centre et au cœur de toutes les idéologies athées, on verrait le ver rongeur. On verrait l'orgueil. Mais on le voile, on le cache, on ne veut pas le dire. Et je crois que c'est le devoir du philosophe, c'est pour ça que j'ai réservé ça au terme. Parce que après, vous comprenez, si vous avez tellement peur de ça, vous ne reviendrez plus, n'est-ce pas? Là, vaut mieux faire la dernière fois, n'est-ce pas, où on se retrouve. L'année prochaine, on prendra autre chose, l'orgueil sera très voilé, on n'en parlera plus. Mais ce soir, je voudrais dévoiler avec vous ce que représente ce qu'il y a de fondamental dans toute l'idéologie contemporaine, et qu'on n'ose pas dévoiler. Parce que je crois qu'au point de vue purement philosophique, on doit le faire. Et alors, si on est dans une éthique chrétienne, c'est-à-dire une éthique religieuse et une éthique chrétienne, on doit le faire avec encore beaucoup plus de force. Et on doit montrer que, de fait, il y a un ver rongeur qui empêche l'homme d'entrer dans son bonheur. Parce que c'est un faux bonheur. L'orgueil ronge le cœur de l'homme et empêche le cœur de l'homme de s'épanouir et arrête tout épanouissement dans l'ordre de l'amour. Et parce que l'orgueil empêche tout épanouissement du cœur de l'homme dans l'amour et ronge le cœur de l'homme, on peut dire que c'est l'anti-béatitude, c'est l'anti-bonheur. Quand je dis anti-sainteté, on pourrait croire que c'est seulement par rapport aux chrétiens. Non, c'est par rapport à tous les hommes. Et dans la mesure même où nous entrons dans ce que je crois être la faute dominante, ou si vous voulez, l'erreur dominante de notre monde d'aujourd'hui, ce serait de voir l'orgueil collectif, symbolisé par la tour de Babel. Et c'est l'orgueil collectif dans lequel on est aujourd'hui. Alors je dis bien orgueil collectif, parce que l'immense avantage de l'orgueil collectif, c'est jamais moi, c'est toujours mon voisin. Et on ne le nomme plus. Alors que l'orgueil est essentiellement individuel. Et il est individuel, et il est personnel par le fait même, mais j'allais dire dans l'orgueil, c'est l'individu qui passe avant la personne. Et c'est l'inversion la plus terrible qui soit. Normalement, au point de vue philosophique, l'individu est ordonné à la personne, et la personne assume l'individu. Tandis que quand il s'agit de l'orgueil, c'est l'individu qui veut son originalité propre. Il y a une espèce de séduction de l'orgueil qui est très très forte. Et dans l'orgueil collectif, on comprend très bien comment, de fait, on ne nomme plus l'orgueil. Et on est mené par l'orgueil. Et je crois que c'est la destruction de l'homme. Et ça se termine nécessairement par une destruction. Alors je voudrais avec vous essayer de regarder un peu ce sujet qui est très important, qui est difficile à traiter au point de vue philosophique. Chez les Grecs, ce serait intéressant, chez les Grecs, l'hubris, c'est-à-dire l'orgueil, est considéré comme la faute contre les dieux. Les Grecs qui ne connaissent pas l'humilité, hein. L'humilité est un fruit de ce que représente l'éthique religieuse et chrétienne, hein, nous l'avons vu. Les Grecs qui ne connaissent pas l'humilité, c'est leur défaut dominant ou mignon, si vous voulez. Hein. Les Grecs ont horreur de l'hubris. Parce que l'hubris, c'est de s'opposer aux dieux. L'hubris, l'orgueil. Vous voyez ça chez Platon, vous voyez ça dans toutes les traditions religieuses, alors il faudrait regarder dans le théâtre grec. Dans le théâtre grec, c'est très net. C'est très curieux que c'est à l'égard du théâtre grec qu'on devrait regarder le point de vue de l'orgueil. J'avais hésité de faire ça ce soir, mais je voudrais aller un peu plus loin que le théâtre grec. Mais si vous relisez le théâtre grec, vous verriez que dans le théâtre grec, c'est toujours cette espèce d'orgueil qui est là, caché, que le cœur dévoile et dénonce. Parce qu'on va contre les dieux. Voyez, on veut ne plus respecter la moira, la destinée, ce que les dieux vous orientent. Alors on veut s'opposer à cela. Et il y a dans Plotin, entre autres, alors à la fin de toute la grande philosophie grecque, il y a dans Plotin des choses extrêmement fortes sur le point de vue de l'orgueil. Pour nous, ce serait à travers toute la Bible. On peut avoir une lecture philosophique de la Bible. Je le conseille très fort. C'est très intelligent. La Bible nous donne une vision de l'homme qui est très intelligente. Et nous devrions découvrir à travers la Bible ce que représente, j'allais dire, la lame profonde de l'opposition de l'homme vis-à-vis de Dieu. Dans le point de vue de l'orgueil. Vous l'avez dès le point de départ. La première faute d'Ève, que nous connaissons bien, mais que nous connaissons souvent d'une façon un peu mythique et pas suffisamment d'une façon philosophique. Parce que nous n'avons jamais réfléchi sur ce que représente ce que les philosophes appellent le mythe de la première faute. Derrière ce mythe, il y a quelque chose d'extrêmement intelligent. C'est pas étonnant. Je vous l'ai déjà dit, les 11 premiers chapitres de la Genèse, si vous les regardez d'une façon intelligente, c'est merveilleux. C'est plus intelligent que tous les mythes religieux. Il y a là quelque chose de très grand et qui va très loin. Alors je prendrai, dans les 11 premiers chapitres de la Genèse, je prends la première faute qui est, de fait, un dialogue entre Ève et le serpent. On est au niveau mythique. Au niveau mythique, je peux parler du serpent. Le serpent exprime l'esprit malin, symboliquement. C'est celui qui va faire dévier l'antique serpent, comme dit l'Apocalypse, hein, ou le dragon, ou le Satan, l'adversaire. C'est la même chose. Il y a trois noms dans l'Apocalypse, pour désigner le même personnage, pour montrer que ce personnage est anti-amour et que ce personnage est anti-Dieu en tant que Dieu est amour. Et vous avez donc le dragon, c'est la toute-puissance du Père, il est anti-Père. Vous avez le serpent, c'est anti-verbe, anti-lumière. C'est l'animal rusé. Et la ruse telle qu'elle est prise là montre l'opposition vis-à-vis de la lumière. Et l'adversaire, Satan, c'est l'anti-esprit. Celui qui inverse toujours tout. Anti-esprit, c'est l'inversion, n'est-ce pas ? C'est celui qui renverse toujours et qui met le désordre. Puisque l'amour ordonne, et celui qui met le désordre, qui prend les mêmes éléments, et c'est celui qui est le Satan, l'adversaire. Donc l'Écriture montre cette force du mal, de façon symbolique, à travers ces trois grands symbolismes, serpent, dragon, et puis l'adversaire, l'ennemi. On voit que dans cette première tentation, il y a ce détournement d'Ève. On ne dit pas si Ève a beaucoup d'expérience ou pas d'expérience, on ne dit pas ce qui s'est passé avant, mais sans doute que Adam n'interrogeait pas beaucoup Ève, je présume. Adam avait une grande intelligence, je n'en doute pas. Il était notre père, et donc il avait une grande intelligence, et donc Adam ne devait pas interroger très souvent Ève. Et quand Ève a été interrogée par le serpent, elle s'est crue intelligente, n'est-ce pas ? Parce que c'est toujours quelqu'un qui vous interroge, ça vous éveille, n'est-ce pas ? Et répondre à quelqu'un qui vous interroge, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant. Alors, Ève s'est mise à répondre. L'interrogation est très subtile. Quelqu'un qui a observé de l'extérieur, comment se fait-il que vous ne pouvez pas prendre des fruits de tous les arbres du jardin ? Ça prouve qu'on vous tient en laisse. Ça prouve que vous n'êtes pas entièrement libre. Et vous prétendez que Dieu vous aime. Et Dieu ne vous laisse pas dans la liberté. Vous voyez, c'est toujours le même schéma. Hein ? Très curieux, le plaidoyer pour la liberté. Un certain plaidoyer pour la liberté. Bon. Alors, on va essayer de détourner Ève. Et Ève répond. C'est intéressant de dialoguer avec le serpent. Il n'a pas l'air bête. Il interroge juste au bon point. Point sensible, point vulnérable. Il a saisi immédiatement ce qui avait peut-être un peu de petit de gêne dans Ève, un peu gêné. De ne pas pouvoir prendre librement de tous les arbres du fruit, du jardin. Alors, elle répond d'abord d'une manière très droite. Ah, pas du tout, c'est pas ça du tout. On peut manger, mais évidemment, là, oui, c'est vrai. Et le démon se sert de ce que Ève dit, elle livre le secret. Pour immédiatement donner, comme on dirait aujourd'hui, une herméneutique de la parole de Dieu. C'est ça qui me frappe le plus. Une herméneutique, c'est-à-dire une interprétation. Ève comprend la parole de Dieu dans un sens de l'amour. Elle comprend que si Dieu lui demande un geste d'obéissance, c'est par amour. Et l'herméneutique du serpent, c'est de renverser la position. Mais pas du tout, c'est pas ça du tout. C'est qu'en réalité, Dieu a très peur. Le jour où vous prendrez de l'arbre du fruit, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. C'est très astucieux, c'est très intelligent ce mythe. Parce que vous voyez, tout ce qu'il fait, c'est quoi ? C'est de faire passer avant l'intelligence. Ève, elle, restait dans le primat de l'amour. Et le primat de l'amour peut faire comprendre l'obéissance. Quand on aime beaucoup quelqu'un, on lui obéit spontanément. On ne réfléchit pas trop. Si vous m'aimez, vous observez mes commandements. C'est Jésus qui dit ça. Si vous m'aimez, si vous ne m'aimez pas, c'est impossible. Donc il y a un primat de l'amour. Dès qu'il y a de l'amour, alors l'obéissance peut se faire. Et l'obéissance devient intelligente. C'est ça qui est très curieux. Dès qu'on aime une personne, alors l'obéissance se comprend. Le démon inverse et dit, mais vous n'avez rien compris. C'est que Dieu est rival. Il est votre rival. Et il a très peur de vous. Et si vous prenez du fruit de l'arbre défendu, alors à ce moment-là, vous dépasserez, ou au moins vous serez l'égal de Dieu. Vous serez comme des dieux. Et vous aurez la connaissance du bien et du mal. C'est la connaissance du bien et du mal. Le primat de la connaissance, au-delà de l'amour. Voilà ce que plaide le serpent. Ça n'a l'air de rien, mais c'est peut-être, ce que nous essaierons de comprendre, le désordre le plus fondamental. Le désordre le plus fondamental, c'est au lieu de laisser le primat de l'amour, de mettre le primat sur l'intelligence. Le démon prétend que prenant ce fruit, donc en désobéissant, c'est-à-dire en montrant que de fait, on est libre, on est parfaitement libre, on ne tient absolument pas compte de ce qui est demandé, on deviendra celui qui pourra discerner le bien et le mal. L'homme devient la mesure de toute chose. Et là, c'est la femme. C'est la femme qui devient mesure de toute chose. C'est Ève qui devient la mesure de toute chose. Il n'y a rien de plus exaltant que de devenir la mesure de toute chose. Et de voir que le bien et le mal n'est plus quelque chose d'objectif, comme on dirait aujourd'hui, mais purement subjectif. C'est en fonction de moi que je décide le bien et le mal. Pour chacun d'entre nous, nous avons le bien et le mal. Et pour chacun d'entre nous, nous avons ce point de vue-là, mais il n'y a rien d'objectif, tout simplement. C'est purement subjectif. Et c'est subjectif en fonction de l'intelligence. Et donc, le démon plaide le primat de l'intelligence sur le primat de l'amour. Et je crois ça très important. C'est la première faute, hein, premier déraillement. Ça nous est montré. Et on sait très bien que Ève se laisse prendre. Elle est séduite. Ce qu'on a dit ensuite, c'est ducta est. Saint Paul qui nous dit ça. Elle a été séduite. Mais séduction de l'intelligence. C'est toujours l'intelligence qui est séduite. Hein. C'est jamais le cœur. Le cœur, il est attiré. Il est attiré par le bien. Tandis que c'est l'intelligence qui est séduite. L'intelligence, c'est, de temps en temps, ce sont des bonnes séductions. Hein. C'est bien évident, il y a des très bonnes séductions, il y a des séductions merveilleuses. On est séduit par des choses belles, et ces choses belles peuvent être très importantes pour nous dans notre vie. On a pu être séduit par quelqu'un et on a découvert que, en effet, c'était quelqu'un de magnifique, étonnant. La séduction relève de l'intelligence. C'est l'intelligence qui est séduite, qui est c'est pas la même chose que d'être attiré. Hein. La séduction, c'est d'être pris. Elle a été séduite. Et alors, elle a acquiescé entièrement. Je prends ce premier exemple. Je prends l'autre exemple que je disais tout à l'heure, la tour de Babel. La tour de Babel, c'est encore dans les 11 premiers chapitres de la Genèse. Les 11 premiers chapitres de la Genèse ont quelque chose de tout à fait premier, primitif. C'est le Saint-Esprit qui se sert de traditions religieuses. Tout à fait primitives. Et quand le Saint-Esprit se sert de traditions religieuses, tout à fait primitives, ça veut dire qu'il veut nous faire comprendre qu'il y a dans toutes les traditions religieuses quelque chose de bon. Dans toute espèce de tradition religieuse, il y a quelque chose de bon. Il y a des petites paillettes extraordinaires. Merveilleuse. Alors, comme le Saint-Esprit a bon goût, il a choisi les meilleures traditions religieuses. Quoi. Et alors, il a choisi les traditions religieuses là où il y avait le plus de vérité. Mais c'est vrai que les 11 premiers chapitres de la Genèse représentent des traditions religieuses qui sont assumées par l'Esprit Saint pour nous faire comprendre des choses tout à fait fondamentales du cœur de l'homme et de l'intelligence de l'homme. Alors, vous avez la première faute qui est une faute personnelle. Elle est tellement personnelle qu'une fois que Ève a été séduite, elle veut séduire son mari. C'est normal. Hein? Quand on a été séduit, on veut immédiatement qu'un autre soit séduit. Parce que quand on est séduit, on ne sait pas très bien si c'est bien. Hein? On hésite un peu. Alors s'il peut y avoir quelqu'un qui tombe dans le même piège que nous, ah, ça nous réconforte beaucoup. Vois? Alors on est très content à ce moment-là. Parce qu'on est, réconforté. Alors c'est ça que Ève veut. Comme ça, Adam va la suivre, elle ne sera pas toute seule. Si Adam lui avait dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu es une imbécile. Et qu'Adam avait rappelé des choses de sa première scène de ménage, mais qui n'aurait pas été mauvaise, après tout. N'est-ce pas? Parce que ça aurait été comme... Tandis que là, au contraire, on a eu première tentation d'uniformité par le bas. Hein? Et la première tentation d'uniformité par le bas, il faut toujours... Vous voyez, ça, c'est la tentation terrible. Au nom de l'unité, au nom de l'égalité, on uniformise par le bas. Et on ne laisse plus les gens pouvoir quand même un peu dépasser les autres. Ce n'est pas une faute si on est en face d'imbéciles. Il faut quand même avoir de temps en temps des idées vraies quand même. Hein, si vous êtes en face de gens qui pensent mal, qui sont dans l'erreur, il faut quand même rappeler la vérité. De fait, Adam s'est laissé tenter. Il a été, on ne dit pas qu'il a été séduit, il a été faible. Ça arrive. Il s'est laissé prendre au jeu. C'est une faute personnelle qui engage un autre. Quand vous regardez le mythe, je parle en philosophe, hein, en tant que croyant, je dirais le symbole. Pas tout à fait le même langage, mais c'est important de bien distinguer les deux. En tant que croyant, je dirais c'est le symbole. Mais en tant que philosophe, je lis la Bible en tant qu'elle m'intéresse. Elle me dit c'est des choses très intéressantes au point de vue de l'homme. Des choses très profondes. Je vois donc la première faute et puis je vois cette faute collective qui termine, puisque c'est au chapitre 11 de la Genèse, qui termine tout ce moment tout à fait symbolique et mythique du début. Après, c'est l'histoire d'Abraham, c'est tout à fait différent. On entre dans l'histoire, tandis qu'avant, on n'est pas dans l'histoire au sens propre. Ce sont des vérités historiques, mais qui ne sont pas données selon une méthode historique, qui sont données à travers des mythes très extraordinaires, très beaux, des symbolismes étonnants. Il y a le dernier, c'est le symbolisme de la tour de Babel. Si vous êtes attentif, vous voyez que les hommes s'unissent. Hein, ils s'unissent. Et encore l'uniformité. Ils s'unissent. Ça peut être un idéal, ça, quelquefois. Ils s'unissent. Que tous, vous ayez 1,70 m, mais pas plus. Pas moins. Mais pas plus. Uniformité. Complète. Tous. Que tous, vous ayez exactement le même poids de pain le matin. Ce qu'on faisait avant dans les couvents quand on jeûnait. Le même poids de pain le matin. Exactement la même nourriture. Exactement. Mais ceux qui ont très faim, ceux qui n'ont pas faim, ça n'a pas d'importance. Exactement. Il faut uniformiser tout. Alors, on uniformise tout, par le point de vue de la tour de Babel. Alors, c'est la tour de Babel. Tous les hommes désirent s'unir pour créer une tour qui touche le ciel. Ça n'a l'air de rien. Créer une tour à Montparnasse qui touche le ciel. Hein, le soir seulement. Parce que pendant la journée, il ne touche pas le ciel. Mais quand on est dans les ténèbres, oui, il touche le ciel. C'est très curieux. Quand on est dans les ténèbres, il y a beaucoup de choses qui touchent le ciel. Alors ça touche le ciel. Mais là, on voit très bien la conséquence et on comprend très bien ce qu'il y a. C'est que Dieu est obligé de se pencher pour voir ce qui se passe. Regardez bien le texte, c'est très très curieux. D'habitude, Dieu voit tout de l'intérieur. Tandis que là, non, il est obligé de regarder de l'extérieur. Pourquoi ? On a mis un voile. Or, le voile par rapport à Dieu, c'est quand on refuse de faire ce que Dieu veut. Donc nous retrouvons la même opposition. Quand l'homme passe devant Dieu, quand l'homme ne veut plus de Dieu, parce que Dieu a une tête de plus que l'homme, il n'est pas dans l'uniformité, très ennuyeux, alors on le supprime, il faut bien le supprimer, pour que l'homme soit l'absolu. Alors Dieu est obligé de regarder de l'extérieur, alors que d'habitude, il regarde de l'intérieur. Autrement dit, quand l'homme met un obstacle à Dieu, Dieu ne peut plus voir de l'intérieur. Il y a des ténèbres qui se font au-dedans de nous. Alors Dieu est obligé de regarder de l'extérieur. Et c'est ce qu'on voit. La tour de Babel apparaît alors à ce moment-là, si on regarde attentivement, comme une espèce d'orgueil collectif de l'humanité qui s'unit pour atteindre le ciel et donc ne plus avoir besoin de Dieu. Je crois que le mythe de la tour de Babel, c'est l'humanité arrivée à l'âge adulte qui n'a plus besoin de Dieu et qui décrète que si elle est unie collectivement, elle n'a plus besoin de Dieu. Elle peut construire une tour qui atteint le ciel et que alors elle n'a plus besoin de Dieu. C'est l'homme qui sauve l'homme. Et c'est assez curieux de regarder cette première faute et la dernière faute. Je regarde uniquement ces 11 premiers chapitres de la Genèse, parce que ces 11 premiers chapitres de la Genèse ont quelque chose pour le philosophe de particulièrement intéressant, parce que c'est avant l'histoire. Donc c'est un peu plus métaphysique. C'est quelque chose de très profond et très fondamental. Et quand je regarde ce quelque chose de très profond et très fondamental, je vois bien que ce qui rompt l'harmonie, c'est l'orgueil personnel et l'orgueil collectif. Et ça, c'est assez net. Je crois que les 11 premiers chapitres de la Genèse sont comme une maquette de tout le gouvernement de Dieu sur l'humanité. Quand je dis maquette, vous voyez ce que je veux dire, c'est que il est ponctué l'âge de l'humanité, chassé du paradis terrestre, le fratricide de Cain par rapport à Abel, le déluge qui est l'iniquité généralisée, c'est pas l'orgueil, c'est l'iniquité généralisée. L'homme ne respecte plus l'homme. Alors tout est repris avec Noé. Et Noé est une préfigure du Christ. Et les hommes ne comprennent plus cette nouvelle, les hommes ne comprennent pas cette nouvelle alliance avec Noé. Et ils essaient de se sauver par eux-mêmes. Et vous avez l'orgueil collectif de l'humanité. C'est très curieux, ces quatre moments des 11 premiers chapitres de la Genèse. C'est très très fort. Relisez ça, ça vaut la peine. C'est chose d'étonnant. Ces 11 premiers chapitres de la Genèse. Parce que c'est fondamental. C'est tout à fait fondamental. C'est comme une espèce de métaphysique religieuse, vous voyez. C'est une métaphysique religieuse qui nous montre à la fois l'homme créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, et comment l'homme est capable de s'opposer à Dieu. Parce qu'au fond, c'est ça. L'orgueil, c'est l'homme qui s'oppose à Dieu. Il y a dans l'homme une possibilité de dire non à Dieu, c'est-à-dire de dire non à son Créateur, et de se mettre dans un état d'hostilité vis-à-vis de ce Créateur, et de créer un état d'hostilité. C'est à la fois la grandeur de l'homme, d'une certaine manière, et en même temps, la chose la plus terrible, l'homme qui s'enferme en lui-même et qui ne veut rien recevoir en dehors de lui. Et c'est bien ça, je crois, l'orgueil. C'est l'homme qui s'enferme au-dedans de lui-même et qui ne veut plus rien recevoir en dehors de lui. Tout ce qui ne vient pas de lui est condamnable. Et il n'accepte que ce qui vient de lui. Alors, ces 11 premiers chapitres de la Genèse sont une maquette très extraordinaire, c'est pour ça que je dis métaphysique religieuse, qui nous fait comprendre comment l'homme créé à l'image de Dieu est capable de se révolter contre Dieu. Alors, nous pourrions trouver à travers toute l'Écriture, et surtout l'Évangile, je ne vais pas le faire ce soir, parce que ça prendrait beaucoup trop de temps, mais je voulais souligner ça. Ce serait très intéressant de faire ça. Je ne crois pas que ça a été fait. Il faudrait un philosophe qui ait le goût profond de regarder à travers la Bible cette hubris, cet orgueil, cette révolte de l'homme à l'égard de Dieu, et de comprendre cet état de révolte. Comment l'homme est capable de dire non à Dieu. Comment il est capable de briser le lien avec Dieu, l'alliance, l'anti-alliance qui se fait de cette manière-là. Regardez dans l'Évangile, puisque nous n'avons pas le temps de regarder toute l'histoire du peuple d'Israël, mais regardez dans l'Évangile. Il y a un drame dans l'Évangile. C'est évident, il y a un drame. Qu'est-ce qu'on voit? On voit une jalousie farouche qui monte. Elle n'est pas explicitée, mais elle est présente. La jalousie des grands prêtres à l'égard de Jésus. Jalousie religieuse, pontificale. Les grands prêtres qui sont en opposition vis-à-vis de Jésus, puisque Jésus peut prendre leur place. Et il est bien plus jeune, il est en dehors de la lignée. Et il y a une opposition farouche qui monte, qui montre. Regardez dans l'évangile de Saint Jean, l'évangile de Saint Jean, à ce point de vue-là, est tragique. Il y a un tragique dans l'évangile de Saint Jean qui est très très fort. On voit très très bien comment progressivement Jésus devient intolérable pour les grands prêtres. Derrière cette jalousie religieuse pontificale, il y a un orgueil terrible. On n'accepte pas que le plus jeune passe devant. C'est un autre aspect de l'orgueil. Mais c'est un aspect qui est très très profond, je crois, qu'à travers toute jalousie, quand elle va jusqu'au bout, hein, pas les petites crises de jalousie, mais parce qu'il y a des petites crises de jalousie, vous savez bien, qui ne sont pas très graves, quoi, qui sont normales, mais les crises de jalousie, quand elles vont jusqu'au bout, quand on assiste à une crise de jalousie jusqu'au bout, il y a un orgueil foncier, un orgueil radical. On n'accepte pas que le plus jeune passe devant. On tient à son poste, à sa fonction. Et puis, peu importe le reste. Parce qu'on veut à tout prix. On veut que ce qu'on a dit, ce qu'on a pensé, demeure et passe avant tout. Donc, il y a cette jalousie terrible. De deux, Anne et Caïphe. Là encore, vous voyez, il faut être deux. C'est curieux, hein. Caïphe tout seul n'aurait pas fait le coup. Anne tout seul non plus. Il fallait les deux pour se réconforter dans leur jalousie et leur orgueil. Et ça, c'est très significatif. Parce que sans doute que l'orgueil ne fortifie pas le cœur de l'homme. Et que l'orgueil est toujours fragile. On affirme beaucoup. Mais en réalité, il n'y a aucune force. Parce qu'il n'y a pas d'amour. Si l'amour est notre force, et que l'orgueil est anti-amour, et que l'orgueil arrête l'amour, l'orgueil, l'orgueilleux proclamera des quantités de choses, mais dès qu'il se trouvera devant quelqu'un qui lui dit non, il va crouler. Il n'a pas de force. La force vient de l'amour. Et il faut le savoir, ça. C'est très important. Quand on aime, on a une force qui est invincible. C'est la force de Dieu. Le démon, je parle au point de vue philosophique de ce que les chrétiens disent, le démon, qu'il s'agisse du serpent, qu'il s'agisse du dragon, qu'il s'agisse de Satan, il n'est pas fort. Il est rusé. Et c'est l'orgueil qu'il mène. C'est le prototype de l'orgueil. C'est vraiment celui qui est pleinement orgueilleux et qui n'est que cela. Il y a donc la jalousie des grands prêtres et il y a la jalousie de Judas. Judas était jaloux de qui ? Lisez attentivement l'évangile de Saint Jean, il était jaloux de Jean, je crois. Il était jaloux. Il n'était pas jaloux de Jésus, c'est impossible. Mais il était jaloux de Jean. Alors, on comprend. Par jalousie, on veut qu'il passe après le détruire. C'est encore une autre forme d'orgueil. Je crois que nous pouvons voir assez facilement dans l'Évangile ce double orgueil, un orgueil religieux et un orgueil fraternel. Et que c'est ces deux orgueils qui se lient. Je n'insiste pas plus. Mais on aurait des quantités d'exemples autour de nous, hein, sans faire appel directement à l'Évangile ou à l'Écriture, qui nous montre ça d'une façon très particulière. Je crois qu'on aurait des quantités d'exemples autour de nous. Et on en a au-dedans de nous-mêmes. Alors, qu'est-ce que c'est que l'orgueil? Maintenant, je me pose la question au point de vue proprement philosophique. Qu'est-ce que c'est que l'orgueil? Comment naît l'orgueil? Je crois que très facilement, l'orgueil est né de la jalousie. Je crois. Pas toujours, hein. Les grands orgueilleux passent au-dessus de la jalousie. Les petits orgueilleux se passent par la jalousie. Et la jalousie est comme le lit de l'orgueil. C'est à travers la jalousie que ça se passe. Mais je crois que le grand orgueil n'a pas besoin de passer par la jalousie. Qu'est-ce que c'est que l'orgueil? Satisfaction de soi-même. Satisfaction plénière de soi-même. Autosuffisance. On se suffit à soi. Ça commence comme ça. Satisfaction de soi-même. Satisfaction de notre intelligence. On aime son propre jugement parce qu'on le trouve plus pénétrant que le jugement des autres. C'est pas mauvais, ça, parce que ça peut être vrai. Ça peut très bien arriver, ça. Vous aimez la philosophie, donc vous êtes intelligent, et donc vous êtes plus intelligent que tous ceux qui ne sont pas ici, n'est-ce pas? Alors on peut se dire ça assez facilement, vous voyez, c'est une auto-satisfaction. Dès qu'on aime la philosophie, on aime que son intelligence soit un peu aiguisée, et que ce soit des couteaux qui coupent bien, et qui coupent nettement. Donc on aime l'exercice de son intelligence. C'est bon d'aimer l'exercice de son intelligence. C'est bien évident que c'est bon d'aimer l'exercice de son intelligence. C'est pas mauvais du tout. L'intelligence est une des meilleures choses. Notre intelligence. Je ne dis pas notre raison, je dis notre intelligence. Celle qui est capable de juger, de discerner. C'est pas mauvais du tout d'aimer son intelligence. Parce que c'est un des fruits les plus merveilleux. Le vieux philosophe Aristote dit que cultiver son intelligence, ça plaît à Dieu. Et je crois que ça reste vrai. Cultiver son intelligence, ça plaît à Dieu. Puisque l'intelligence vient directement de Dieu. C'est par l'intelligence qu'on est à l'image de Dieu. C'est pas une chose mauvaise du tout. On a une intelligence mathématique, on aime les mathématiques. C'est pas mauvais du tout d'aimer les mathématiques. C'est quelque chose quand même de grand et de beau et de noble. On a une intelligence artistique et on cultive le point de vue de l'intelligence artistique, poétique. C'est merveilleux. C'est merveilleux de voir une intelligence poétique. C'est très étonnant. Prenez dans les grands poètes. Extraordinaire de voir ça, la manière dont ils poursuivent leur projet. On a une intelligence philosophique. C'est beau aussi. Donc, aimer son intelligence, aimer le développement de son intelligence, c'est bon. C'est pas mauvais du tout. Que l'intelligence soit source d'autonomie en nous, c'est bien évident. On est dépendant des autres dans les domaines où on n'a pas fait soi-même sa propre enquête. Alors on est dépendant. Dès qu'on a creusé un sujet au plan philosophique, dès qu'on a essayé d'aller jusqu'au bout de l'analyse, qu'on a essayé de comprendre un peu ce que les autres disaient, alors on acquiert une grande autonomie. Celui qui cultive son intelligence acquiert une très grande autonomie. Et plus notre intelligence est cultivée, plus nous sommes autonomes. Plus nous sommes indépendants du jugement des autres. On peut le faire de diverses façons. On peut dire tous les autres sont des imbéciles, ils ne comprennent rien du tout, donc ça me vient égal. C'est tout à fait normal qu'ils me critiquent, parce que j'ai une tête de plus, c'est normal. Ils me la couperont à la prochaine révolution, je le sais bien, mais au fond, ça retombera sur leur tête, parce que ça ne peut pas être autrement. Alors, vous voyez, donc j'ai une tête de plus, je méprise les autres. C'était la chose extraordinaire, vous savez bien, de Cicéron, quand il dit ça. Phrase de Cicéron qui est très belle, hein, quand il dit chaque sénateur est intelligent, mais le Sénat est bête, alors appliquez ça à d'autres choses, n'est-ce pas ? Et vous voyez que vous pouvez très bien dire chaque sénateur est intelligent, mais le Sénat est bête. C'est une phrase étonnante de Cicéron, ça. De voir que, de fait, les intelligences prises en elles-mêmes peuvent être très, très grandes, et puis quelquefois, quand elles s'unissent, elles sont moins grandes. Elles ont peur d'autre chose. L'intelligence est source d'autonomie. Ça, c'est vrai. Dans tous les domaines où vous avez creusé vous-même, vous êtes autonome. Vous voyez, dans l'ordre de l'art, par exemple, quand vous avez un tout petit peu cultivé un peu votre intelligence poétique, artistique, vous avez une très grande autonomie quand il s'agit de voir telle chose, telle réalisation artistique, et vous pouvez facilement discerner si c'est quelque chose qui vous plaît, pourquoi ça vous plaît, et pourquoi au contraire d'autres choses sont désastreuses. Si vous n'avez rien du tout, vous êtes à la morgue des autres, vous êtes à la remorque des autres, et vous attendez leur jugement. Et alors à ce moment-là, si vous voyez un critique qui fait telle ou telle chose, vous répétez ça, sans dire que c'est lui, évidemment, mais vous le répétez, puis vous voyez tout de suite quelqu'un d'autre qui est dans opposition. Aucun argument contre, vous répétez, vous ne savez pas, alors vous écoutez, tiens, puis vous changez un tout petit peu, alors vous êtes une girouette, c'est pas, vous passez de l'un à l'autre, parce que vous n'avez pas le discernement. L'intelligence nous donne une autonomie qui nous permet de rester dans une ligne qui nous semble une ligne qui est juste. une ligne qui est vraie. Alors vous arrivez à discerner que l'intelligence donne l'autonomie, mais l'autonomie est une chose bonne. C'est une chose grande, l'autonomie. C'est pas du tout mauvais. Donc que l'intelligence nous permet d'avoir ça, très bien, c'est qualitatif, l'intelligence. C'est même une des choses les plus qualitatives qui sont en nous. Alors, à quel moment va commencer l'hubris? À quel moment va commencer l'orgueil? Ah, c'est ça qui est intéressant. Mon intelligence, je peux la pousser. Elle est bonne en soi. Je ne dis pas du tout que mon intelligence est une chose mauvaise. Mon intelligence est une chose bonne. Et la recherche de la vérité, c'est une des choses les plus dignes et les plus grandes de la personne humaine. Alors, à quel moment le ver rongeur va pénétrer dans le fruit? Et ici, dans l'intelligence. Pour faire que cette intelligence n'est plus une intelligence limpide, une intelligence qui m'ennoblit, une intelligence qui me donne une perfection et une qualité unique, à quel moment? C'est ça qui est important. C'est, je crois, le moment où l'intelligence ne veut rien accepter au-delà d'elle-même. C'est-à-dire ce repliement de l'intelligence. Et vous voyez, c'est là où je vois que l'intelligence, en se repliant sur elle-même, n'est plus vraiment l'intelligence. Une véritable intelligence recherche toujours la vérité. Que ce soit un autre qui l'ait découvert, que ce soit nous, ça n'a pas d'importance. On cherche la vérité. Le petit moment du repliement, on dit « Ah, j'accepte pas ça, c'est pas moi qui l'ai trouvé. » C'est impossible qu'un autre l'ait trouvé. On se met au-dessus. Alors il y a un repliement d'intelligence, et ce repliement d'intelligence, ce n'est pas l'intelligence, c'est notre volonté d'exaltation de nous-mêmes. C'est le moment où notre volonté intervient. L'orgueil est volontaire. Il n'est pas l'intelligence. L'orgueil est dans la volonté. C'est parce qu'on veut dominer les autres. C'est parce qu'on n'accepte pas qu'un autre passe devant. C'est parce qu'on n'accepte pas qu'un autre ait trouvé la vérité avant nous. Alors à ce moment-là, on se ferme volontairement, on s'enferme sur soi, et s'enfermant sur soi, on n'accepte plus la véritable recherche de la vérité. On n'accepte plus qu'un autre passe devant nous. On veut tout découvrir par nous-mêmes. C'est ce petit repliement volontaire d'exaltation de soi. Donc on met l'exaltation de nous-mêmes au-delà de la recherche de la vérité. Ce n'est plus la recherche de la vérité qui est le bien de l'intelligence. L'intelligence, elle est bonne dans la mesure où elle recherche la vérité. C'est ce repliement de l'intelligence sur elle-même qui veut uniquement séduire, qui veut uniquement dominer. C'est ce repliement de l'intelligence sur elle-même qui va être le premier moment du ver qui va pervertir, qui va ronger le fruit, qui va pervertir notre intelligence, qui va l'empêcher de se développer normalement. Et alors à ce moment-là, l'intelligence n'est plus au service de l'amour, n'est plus au service de la vérité. L'intelligence est uniquement là pour s'exalter. C'est l'exaltation de nous-mêmes qui devient le souci dominant. Cette exaltation de nous pour qu'on reste toujours celui qui est premier. celui qui ne tolère pas qu'un autre passe devant et qui veut être uniquement celui qui est capable d'affirmer telle ou telle découverte, peu importe, le souci de la vérité est laissé de compter, mais c'est de pouvoir dire, pouvoir proclamer ce qu'on a découvert. Et ceci peut se réaliser de deux manières. Et je crois que c'est là qu'on découvre comme deux formes d'orgueil. L'orgueil à l'égard de celui qui est tout proche de moi, de mon prochain. Et alors le prochain devient rival. Et je l'exclus. Et je veux l'exclure. C'est pour ça que l'orgueil va briser l'amour qui m'unit à mon prochain. Et ça peut aller très loin. L'orgueil peut faire que si mon prochain risque d'être un rival qui passe devant moi, je veux l'exclure complètement. Et ça peut aller jusqu'au fratricide, jusqu'à l'homicide. Je veux l'exclure. Parce que je ne tolère pas qu'il puisse y avoir quelqu'un qui passe devant moi. Au fond, je nie l'autre pour mieux m'affirmer. Et j'ai besoin de nier l'autre pour m'affirmer. L'intelligence se sert alors de la négation pour pouvoir s'affirmer davantage. Elle s'appuie sur la négation pour s'affirmer davantage. Et l'orgueil peut aller beaucoup plus loin. L'orgueil peut aller par rapport à l'attitude religieuse. Et donc refuser une obéissance à l'égard de Dieu, à l'égard de celui que nous considérons comme créateur. Et considérer qu'il y a quelque chose de plus important, c'est d'affirmer ce que nous ressentons au-dedans de nous-mêmes. La sincérité qui remplace la recherche de la vérité. Je ne sens plus ce que représente la dépendance à l'égard de Dieu dans l'adoration. Et donc, être sincère, être vrai, c'est uniquement affirmer ce que je ressens. Ce que je ressens. Et petit à petit, c'est ce primat de l'intelligence, de ma propre conscience, qui l'emporte. Et ça peut aller jusqu'à la négation d'une réalité supérieure à moi-même et à tous les hommes pour pouvoir m'exalter davantage. Je crois qu'il faut bien comprendre que dans l'orgueil, l'intelligence se sert de la négation pour s'exalter. La négation que l'intelligence peut réaliser, elle peut nier toutes les réalités qui risquent de l'empêcher d'être elle-même dans son propre développement et sa propre exaltation. L'intelligence est capable de cela, elle peut le faire, et elle risque de se laisser griser par la négation. Alors il devient un primat de la négation, c'est ça qui est très curieux. Je crois que dans toute philosophie où il y a un primat de la négation, ce serait intéressant à étudier cela. Je ne peux pas l'affirmer de façon absolue, mais si on analyse, je crois qu'on arrive à cette affirmation qui me semble importante, que dans toute philosophie dans laquelle il y a un primat de la négation, ceci provient toujours d'un orgueil, plus ou moins explicite, hein, pas nécessairement formulé. Parce que le primat de l'affirmation montre qu'on est en liaison avec un autre. avec un autre qui est capable de m'apporter quelque chose, un autre qui me détermine, qui est l'objet propre de ma connaissance. Et dès que je suis en contact avec un autre qui passe devant moi, mon intelligence accepte cette attitude de réceptivité, cette attitude d'être relative à un autre. Donc fondamentalement, j'allais dire, d'être dans l'humilité, laisser l'autre passer devant. Parce que j'ai besoin du plus petit que moi, j'ai besoin de toutes ces réalités pour les connaître, pour aller toujours plus loin. Le jour où j'affirme que la négation est première, j'affirme que ce que je connais, en tant que je le connais, c'est ma seule référence. Et donc, seul ce que je connais mesure le reste. C'est ma référence. Et c'est en ce sens-là que l'orgueil s'introduit en moi. Je vous disais, ce repliement sur soi. Est-ce que le repliement sur soi, dans ce qu'il a de plus fondamental, n'est-il pas le primat de la négation ? Considérer que la négation est première et que sans la négation, je ne peux pas avancer. Et ceci me semble être le fruit de l'orgueil, d'une intelligence qui se replie sur elle-même et d'une intelligence qui cherche, par le fait même, à s'exalter. On peut donc dire que l'orgueil, qui est du côté de la volonté, pas l'oublier, mais l'orgueil se sert de l'intelligence. C'est un acte de l'intelligence qui est la matière de l'orgueil. Parce que la plus grande exaltation qu'on peut avoir de soi, c'est par le point de vue de l'intelligence. C'est pour ça que l'orgueil manifeste encore la grandeur de l'intelligence. C'est sûr. Parce que vous enorgueillez pas par exemple, parce que vous avez une concupiscence énorme vis-à-vis du chocolat. Non, vous pourrez être vaniteux là-dessus, en disant que moi j'aime le chocolat, je peux discerner toute espèce de chocolat du monde, je les ai tous mangés, et j'ai dit, bon, c'est très bien, on laisse un tout petit peu raconter son histoire, et puis c'est tout, mais c'est pas de l'orgueil, c'est de la grosse vanité, et puis c'est tout, parce qu'on cherche toujours à être premier dans un domaine particulier, quand vous n'avez pas trouvé d'autre domaine que celui-là, ben c'est très bien, mais c'est pas très orgueilleux, tu vois, tandis que dans le domaine de l'intelligence, être premier dans le domaine de l'intelligence, c'est tout à fait autre chose. C'est une délectation bien plus grande. Pas c'est dans le domaine de l'intelligence où, de fait, je suis premier. Et là, je peux le dire que dans ce domaine de l'intelligence, personne ne peut me battre. L'orgueilleux arrive à cela. Ordinairement, c'est dans tel ou tel domaine particulier, mais c'est quand même toujours le point de vue de l'intelligence. Donc la matière de l'orgueil, c'est toujours l'exaltation de l'intelligence. Et c'est de mettre l'intelligence au-dessus de tout. Et donc, la volonté d'exaltation de soi, qui est l'orgueil, va se servir de l'intelligence, et d'une intelligence qui se replie sur elle-même, et d'une intelligence qui n'est plus au service de l'amour. Je crois que c'est cela qui va en dernier lieu nous faire comprendre ce qu'est l'orgueil. C'est que l'orgueil, c'est l'intelligence qui cherche son propre développement par amour de nous-mêmes et pour nous-mêmes, pour nous exalter. C'est une intelligence qui progressivement va devenir rivale de l'amour. C'est une intelligence qui progressivement va devenir en opposition vis-à-vis de l'amour. Et c'est pour ça que l'orgueil rejette tout amour. Sauf l'amour de soi, qui n'est plus un véritable amour, qui est un amour larvé, puisque l'amour me fait porter vers un bien qui est autre que moi et qui me permet de me développer, d'être moi-même. Donc l'orgueil, c'est l'opposition vis-à-vis de ce dépassement de soi-même pour s'exalter. l'exaltation de soi. Alors que l'amour me met relatif à un autre. Et c'est pour ça que quelquefois, ça peut être si difficile d'aimer, quand l'orgueil est très très tenace en nous. Parce que l'orgueilleux qui est en nous, ou l'orgueil qui est en nous, ne tolère pas cette dépendance à l'égard d'un autre. Qu'on a pu très bien comprendre qu'il est moins intelligent que nous. On n'aime pas toujours des êtres qui sont plus intelligents que nous. Ça aide, mais ce n'est pas toujours le cas. Et on peut très bien aimer quelqu'un qui est beaucoup moins intelligent que nous, et qui a d'autres qualités, qui a un cœur merveilleux, un cœur extraordinaire, et on l'aime vraiment. Et l'orgueil sera là pour dire, non, c'est pas digne de toi. Il faut aimer quelqu'un qui est beaucoup plus intelligent que toi. Alors là, ce sera normal. Et là, on voit très bien comment l'orgueil va rompre petit à petit tous les liens d'amour. Pour uniquement l'exaltation de soi. L'orgueil exalte notre propre individualité et exalte notre individualité ordinairement dans un désir d'originalité. C'est très curieux que presque toujours l'intelligence orgueilleuse cherche une originalité pour maintenir son primat. J'ai inventé ça. Dans ce domaine-là, pas de danger. Vous voyez, on cherche sa propre forteresse. On jette de la poix sur les autres, hein, parce que justement, ils sont incapables d'entrer dans cette petite forteresse. Et alors, c'est l'orgueilleux qui se replie sur lui-même et qui, dans son originalité, ceci se voit surtout chez les artistes, mais je crois que tout orgueil désire un peu ce... trouver cette originalité, trouver un domaine dans lequel on sera imbattable. Alors, je crois des petites originalités très curieuses. Vous, dans ce domaine-là, on pourra dire que personne ne peut nous rejoindre. Avec le désir tellement d'être soi-même monolithe, ou lié avec les autres dans un anonymat, où chacun est lié dans un agrégat. C'est pas une communauté, il n'y a pas de communauté d'orgueilleux, c'est impossible. Il peut y avoir un agrégat. Le démon se dit légion, il ne se dit pas communauté. Il n'y a pas de communauté, c'est anarchique. Complètement. Complètement, c'est l'anarchie complète. L'orgueilleux ne peut pas se lier avec un autre, c'est impossible. Vous voyez par là que l'orgueil s'oppose de la manière la plus radicale à ce que représente la sainteté. La sainteté, c'est le primat de l'amour à l'égard de Dieu dans l'adoration en esprit et en vérité et à l'égard du prochain. C'est bien ce qui nous est montré dans l'Évangile. La sainteté de Jésus, c'est que Jésus est capable d'offrir sa vie pour ceux qu'il aime. Et il fait cela dans la lumière de la volonté du Père, pour nous montrer que l'amour qu'il a pour le Père est plus fort que la mort, et que l'amour qu'il a pour le Père dépasse toutes les morts. C'est un primat absolu de l'amour. Ce n'est pas du tout sans intelligence, mais c'est une intelligence qui est au service de l'amour. Tandis qu'au contraire, dans l'orgueil, c'est une intelligence qui brise l'amour. Une intelligence qui devient métallique, une intelligence qui devient comme un scalpel, qui ne cesse de dénoncer les limites, les erreurs, qui ne cesse de dénoncer toutes les imperfections de l'autre, de tous ceux qui sont autour de nous, pour s'exalter, pour être le seul. Le seul qui puisse dire la vérité, énoncer la vérité, proclamer la vérité, et donc le rejet à l'égard des autres, le rejet le plus puissant à l'égard des autres. Je crois que là nous saisissons indépendamment de la foi, au plan proprement philosophique, mais la foi ne fait qu'augmenter cette certitude, mais uniquement au point de vue philosophique. Nous assistons là, je crois, au désordre le plus profond. L'intelligence, dans ce qu'elle a de plus grand, doit être au service de l'amour, pour permettre à l'amour d'être un amour spirituel, un amour intelligent, un amour qui aille toujours plus loin, dans le don de nous-mêmes à l'autre, qu'il s'agit de Dieu ou qu'il s'agit du prochain. L'intelligence, dans ce qu'elle a de plus elle-même, est au service de l'amour. L'intelligence, dans l'orgueil, s'oppose à l'amour en se repliant sur elle-même, en ayant uniquement conscience de sa noblesse, conscience de son autonomie, conscience de sa propre perfection, et ne cherchant que sa propre exaltation. Je m'arrête.